Café Croissance. Un podcast Audiolab.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Croissance, le podcast qui vous parle de business et de transformation de soi. Cette voix qui vous parle est celle de Warco Brienza, bien accompagné de Tony Germini, cette fois pile en face de moi. Je te salue Tony.
Je te salue Marco et bonjour à tous.
On a un gros sujet hein, pour cet épisode. Pourquoi ? Parce qu'on doit opposer deux notions. Quoique, peut-être que non, hein, le titre de ce podcast est de la stratégie de croissance à la rentabilisation et je pense que je ne suis pas le seul commercial ou stratège de vente à qui on a posé la question du est-ce qu'on doit croître ou est-ce qu'on doit assurer la rentabilité de tel deal ou de tel autre deal. Et parce que en fait, ça touche autant les produits, hein, les biens de consommation, ceux qu'on vend en B2B, l'industrie ou les services, on va en faire l'objet de cette émission. À vrai dire, il y a même une question qu'on a envie de poser, c'est croissance ou rentabilité, pourquoi choisir ? Attention, je ne vais pas spoiler cet épisode parce qu'avant ça, on aura une digitale qui devrait t'intéresser, Tony, et on terminera par les inspirations comme à l'accoutumée. Ça te va comme programme ?
Comme toujours, moi ça me va, c'est un super programme.
Café Croissance.
Yes ! Alors la digitale que j'ai sélectionnée, cette fois c'est moi qui m'y suis collé, c'est un truc qui devrait t'intéresser, qui devrait intéresser la société Data Driven Calypse SA. Pourquoi ? Parce qu'il y a le nouveau Swiss Digital Ranking qui va être lancé cette année, en 2024. Il va paraître en fait le 12 juin. Alors c'est pas une annonce qui m'a fait waouh non plus, hein, au sens où des catégorisations de boîtes IT, parce que c'est ce que va proposer le Swiss Digital Ranking. Ben, il en existe déjà, hein. Tu me rappelais que c'était le journal ICT qui le faisait jusqu'à maintenant. Ben, il semblerait que l'éditeur Netsmedion ait envie de le proposer cette fois au niveau suisse. Attention, toutes les boîtes IT et au sens large, hein, parce qu'il y a même par exemple le marketing digital qui est représenté dans ce classement, eh ben, on a jusqu'au 8 avril pour participer gratuitement et se retrouver en fait, dans cet almanach de l'entreprise IT et des différents services dont ont tant besoin les PME et les multinationales suisses.
Alors, c'est pas nouveau, parce que je viens de le découvrir, j'ai reçu dans ma boîte email, effectivement, un email en allemand qui parle de ce même ranking envoyé par Netsmedia. L'expérience que j'ai du passé de ICT Magazine, hein, c'est qu'ils l'ont fait à plusieurs reprises, hein, peut-être même une dizaine de fois. Hein. Au début, on se prêtait au jeu, on répondait. Moi, ce que j'avais remarqué, c'est que le ranking qui était publié à la fin, il publiait uniquement les sociétés qui avaient plus que 20 employés. Donc, en fait, après, voilà, c'était un choix, hein. Je trouve que c'était un peu... Si on voulait être visible, il faut aller jouer avec le nombre d'employés. Puis après, voilà, on était un peu listé par rapport à cela. Donc après, il y avait des choix qui étaient faits. C'est vraiment, est-ce qu'on va être visible ou pas ? Est-ce qu'on donne un nombre d'employés ? Pour être clair, hein, moi, les dernières années, je n'ai même pas répondu au formulaire. Je vais jeter un coup d'œil. Je suis curieux de voir c'est quoi le Swiss ranking. Parce que là, au niveau suisse, la position va être différente.
Café Croissance.
Allez, on revient à la question du jour. Croissance ou rentabilité, pourquoi choisir ? Bon, bah déjà parce qu'il y a un temps pour tout, j'avais envie de dire que spontanément, intuitivement, mais tu vas me dire ce que toi t'en penses, hein, Tony, moi j'ai l'impression qu'une stratégie de croissance, on a plutôt envie de le faire au début d'une initiative entrepreneuriale, hein. On est un nouveau venu, on veut s'insérer dans le marché, et puis bah, va falloir jouer un petit peu des coudes, hein, parce que souvent le marché ne nous a pas attendu, à moins qu'on soit une start-up disruptive sur un marché qui n'existe pas encore, a priori, il va falloir qu'on marche sur les plates-bandes de quelqu'un, hein, qui est en train de commercialiser un produit, et puis nous qui arrivons avec une solution qui serait encore mieux. Donc moi, j'ai l'impression que dans un premier temps, on doit commencer par une stratégie de croissance, et on va voir qu'il y a différentes directions finalement pour croître, et puis dans un deuxième temps, une fois qu'on a la position qui nous va bien, eh ben on va pouvoir penser davantage à la rentabilité, à la rentabilisation des deals qu'on est en train de discuter avec ses clients.
Jusqu'au prochain cycle. En fait, je dirais, on est tout le temps en train de jongler entre la croissance et la rentabilisation. Et le mot-clé, c'est la stratégie. Hein. La stratégie, elle se définit, elle se redéfinit chaque 3 à 5 ans. Et enfin, moi, par expérience, hein, sur les 20 dernières années, il y a des périodes où on était en croissance, des périodes où on était en rentabilisation, des périodes où on faisait les deux. Donc ça, c'est moins simple. C'est beaucoup de blabla, hein, c'est beaucoup de théorie ce que je dis, mais concrètement, hein, si on décide de faire de la croissance, il faut avoir des moyens.
La chose que tu me rappelles, Tony, c'est plein de discussions où j'ai l'impression qu'on faisait plutôt du bricolage que de la stratégie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais l'ambition peut-être de poser quelques basics à travers des exemples, plus qu'à travers des grandes théories. Vous inquiétez pas, on a fait nos classiques, vous retrouverez la matrice d'Anzoff hein, qui donne les quatre directions pour pouvoir croître. Hein. La diversification, c'est un exemple, le développement produit. Souvent, le développement produit, on le combine avec un effort marketing. Donc, il n'y a pas un seul levier sur lequel on appuie pour croître. Il n'y a pas qu'une seule direction pour croître. On peut même combiner, par exemple, extension de marché et diversification, pour prendre cet exemple-là. Moi, j'avais surtout envie qu'on parle de nos expériences à nous de croissance, parce qu'on a déjà bien pied dedans là, sur la croissance, et on parlera tout à l'heure de la rentabilité ou de la rentabilisation qui doit logiquement suivre la croissance. Mais là où je te rejoins complètement, Tony, c'est que c'est des cycles. Je ne me souviens plus, en fait, quel CEO disait qu'une boîte qui ne se disrupte pas elle-même à terme, elle mourra. Mais je trouve qu'en fait, c'est une orientation super intéressante parce qu'il faut constamment se remettre en question. Et donc, effectivement, stratégie de rentabilisation précède croissance dans le cas d'une multinationale, par exemple, qui a envie de se diversifier.
C'est peut-être le même CEO de l'autre côté de l'Atlantique qui dit que chaque année, il faut revoir 10% de son effectif.
Et donc, 10% de l'effectif qui doit se concentrer
au futur. Non, 10% de l'effectif qui doit être remplacé. C'est un peu extrême, mais on se projette toujours dans la croissance et dans la rentabilité.
Bah, du concret, j'avais envie d'apporter maintenant, avec mes expériences de croissance à moi, et j'avais envie de partir du produit, d'un produit en dur. Pourquoi ? Parce que pour une ou deux notions qu'on a envie d'expliciter aujourd'hui, j'ai l'impression que ça peut être plus facile de se représenter, ouais, avec des produits en dur, certains de ces raisonnements. Donc moi, j'en avais deux, des exemples qui me sont venus à l'esprit. On va être dans l'univers des boissons. On va revenir à ma vie antérieure où je vendais passablement de bouteilles en PET, en verre ou des canettes. Et je commencerai avec la joint venture que j'ai connue. C'était il y a, mon Dieu, une quinzaine d'années, quoi, quand même, ou une douzaine, on va dire, entre PepsiCo et Nestlé Waters. PepsiCo qui avait décidé de redébarquer en fait en Suisse. Les contrats, en général, ça dure, les contrats de franchise, 5 ans, 7 ans, 10 ans, quand ça fonctionne bien. Et je précise pour nos amis français ou belges, ou d'ailleurs qui nous écouteraient, la Suisse, c'est un marché de Coca-Cola. Et effectivement, quand on a décidé de venir taquiner Coca-Cola sur un de ces marchés de référence comme la Suisse, il va falloir mettre les moyens. Moi-même, j'étais à cette époque key account manager, donc je m'occupais de gros clients, et là, je me rappelle vraiment, c'était moche, quoi, c'était sale, comme je te le mentionnais en off. Pourquoi ? Parce que dès le moment où l'information est passée au niveau du marché, donc pas au moment où c'était officiel, là c'est déjà tard, on avait commencé à avoir des premiers appels de clients, hein, de clients restaurateurs, qui mentionnaient qu'ils s'apprêtaient à signer avec Coca-Cola. Donc surprise totale de notre côté, parce qu'effectivement, en changeant la dénomination du produit qu'il y avait dans le contrat du client, il avait par exemple Virgin Cola qui était mentionné, c'était une franchise qui s'arrêtait et qui allait être remplacée par PepsiCo, le contrat n'est plus valable. Selon Coca-Cola, et je pense qu'ils avaient eu quelques checks de leurs juristes, les contrats n'étaient plus valables parce que le produit n'était plus mis à disposition, et ils étaient venus avec une somme de conditions, donc du matériel type frigo et parasol, des ristournes, donc de l'investissement en argent, qui fait que dans un premier temps, on a même perdu certains clients, alors qu'on pensait qu'on allait devoir ferrailler sec pour en gagner du côté de Coca-Cola. Et puis ça a été la bataille des parasols. Ça, c'est un autre truc que je me rappelle. Quand on vend une boisson fraîche, un des éléments de type matériel publicitaire essentiel, c'est le parasol. Je me souviens qu'on devenait fou à devoir stocker des centaines de frigos qui n'étaient pas encore livrés chez les clients et qui étaient censés remplacer ceux de Coca-Cola. Donc des complexités. Alors soit sur la partie logistique, c'est avec ce fameux matériel, soit sur la partie négociation contractuelle, parce que les clients, ils ne voulaient pas lâcher en fait Coca-Cola. Et puis moi, le souvenir que je garde, parce que j'avais des clients chaînés dont je m'occupais, feu, par exemple, Aperto, des magasins qu'on retrouvait dans les gares, entre-temps rachetés par Coop, vous voyez comme ça bouge quand même, le monde du food, le monde du retail. Il s'est passé 10 ans, mais il n'y a plus rien qui ressemble aujourd'hui à ce que j'avais connu il y a une dizaine d'années. Et effectivement, parce qu'on avait des moyens additionnels pour faire des deals sur PepsiCo et 7-Up, qui étaient également dans l'assortiment PepsiCo, moi j'ai réussi à garder et à rapprocher encore certains clients en leur balançant des conditions additionnelles. Mais ces conditions, en fait, elles profitaient à plus que l'assortiment PepsiCo, à ce qu'on appelle le cross-selling. Donc je ne rentrerai pas sur davantage de détails, mais pour vous dire, quand on a décidé de suivre une stratégie de croissance, un des éléments clés, c'est le vendeur. Et le vendeur est extrêmement sollicité de toutes parts, pas seulement du client, mais également de ceux qui s'occupent de livrer le matériel, matériel publicitaire, mais pas que.
Bon, toi, tu me connais. Moi, j'ai une autre façon de voir les choses. Je suis plutôt dans le monde d'un service. Donc,
et B2B, en plus.
Et B2B. Donc, la stratégie de croissance et de rentabilisation, ça fait partie de notre quotidien, pratiquement. Je disais avant, le fameux dilemme, qu'est-ce que l'on fait ? On fait les deux, un après l'autre. Il y a environ 10 ans en arrière, on s'est bien rendu compte que sur le marché où on se positionne, le marché de la BI, du décisionnel.
Mm-hmm. Business intelligence, donc.
Business BI. Intelligence, chacun l'appelle comme le veut, mais c'est de l'analytics, comme l'appellent les Américains. Le marché est en train d'évoluer, le marché a évolué et a même changé actuellement, parce que des gros se sont mis à le proposer de façon, entre guillemets, simplifiée, pour ne pas le nommer Microsoft. Donc en 2015-17, on a senti effectivement qu'il fallait qu'on se diversifie, qu'on essaie d'aller vers une offre diversifiée, donc une stratégie d'innovation. On sortait d'une période de rentabilisation avec une croissance. Donc on parle de 17, 18, 19, 20. Hein. Donc la rentabilisation, je disais avant, elle nous a servi à faire des réserves. Faire des réserves pour pouvoir investir dans l'innovation et investir dans une croissance qui n'est pas forcément rentable. Juste avant le Covid. Donc j'ai décidé à ce moment-là de mettre en place un système d'alignement business. Là, en l'occurrence, la méthode s'appelle Scaling Up, qui est apparentée à une méthode qu'on a déjà citée dans un autre podcast qui est EOS.
Donc c'est une méthode à déployer au niveau interne avec ses équipes. Hein.
C'est une méthode que beaucoup d'entre vous ont pu lire ou écouter en théorie, mais en pratique, c'est exactement la même chose. Hein. On décide un endroit où on va, on décide la durée, on décide l'équipe et on y va de façon coordonnée. Donc c'est vraiment une méthode d'alignement.
Je pense que la clé, c'est les reviews. C'est-à-dire, il faut qu'on se check régulièrement. Moi, je me souviens, c'était même tous les jours que l'équipe qui était dédiée aux clients, elle se checkait. Et puis, ça permettait vraiment de rester en ligne les uns avec les autres.
Hein. Avec du recul, hein, cette méthode-là, j'aurais dû l'appliquer avant, mais bien avant. Parce qu'en fait, je viens vraiment au cœur. Hein. C'est aussi une façon de gagner en rentabilité et d'accélérer sa croissance. Parce qu'en décidant de mettre en place un système d'alignement d'entreprise, hein, donc je l'appelle vraiment alignement, hein, parce que c'est important. Il y a déjà une chose, depuis le haut, il y a une stratégie qui est mise en place. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Donc nous, on l'a fait, hein, ça s'appelle Scaling Up, on l'a fait pendant presque 2 ans et demi. Hein. Mais en fait, on s'est rendu compte autour du processus qu'on n'est pas aligné. Il y a des gens qui se prennent pour des capitaines, qui ne le sont pas. D'autres qui ont la capacité d'être capitaine, mais qui n'osent pas. Et puis en faisant tout ce travail d'ensemble d'alignement, hein, qui vient, je lui parle du haut vers le bas, mais en équipe, en fait, le mot qui me ressort le plus simple pour simplifier tout ça, c'est un bordel. On a dû beaucoup travailler sur nous-mêmes, travailler sur nos gens. On faisait des séances d'alignement, des séances, comme tu dis toi, c'est des routines. Hein, quelque part, on définit un objectif à 3-5 ans, on le réduit à une année, après on réduit au trimestre. Le trimestre, ça se vient en semaine. Puis après, chacun a sa propre responsabilité et objectif. Mais quand on fait plus de reviews, puis on se rend compte que les gens, ils ne viennent pas avec des résultats d'objectifs, mais ils viennent avec des excuses pertinentes. Hein. Mais quand on est menteur, il faut qu'on ait une très bonne mémoire. Mais à force de suivre des indicateurs sur une performance, les usurpateurs sont
démasqués.
Sont tout de suite démasqués. Mmh. Voilà, mais je dis, c'est vraiment l'expérience. Hein. Puis quand on fait ces sessions, on en a fait certaines en physique, certaines en visio. On parle de quelque chose de plus important. Hein. On parle d'aligner toute l'équipe d'officiers d'un bateau qui doit traverser l'Atlantique pour aller à un objectif, aller à Cuba, par exemple. Mais si la moitié de l'équipage pense à faire autre chose pendant que vous êtes en train de donner les ordres, hein, par rapport à la route, il ne faut pas vous leurrer. Hein. Vous allez peut-être y arriver, mais peut-être 3-4 semaines plus tard. Mm-hmm. Et c'est exactement ce qui arrive en entreprise. Et là, on fait quoi? On perd. On perd en rentabilité ou on s'étonne qu'on n'arrive pas à atteindre la croissance qu'on avait estimée. Parce qu'on s'est peut-être usurpé dans certaines choses. Et j'en reviens au fait, c'est peut-être pas les bonnes personnes qui sont à bord. Et après, il y a d'autres défis à faire. Qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là? Je vous dis maintenant, avec du recul, ces personnes-là, elles doivent sortir tout de suite.
Vous avez vu, hein, quand on parle de croissance ou de rentabilité, j'ai l'impression qu'on est tout de suite à penser à des chiffres. Mais quand on écoute les explications de Tony, on se rend compte que, à nouveau, c'est l'humain qui est au centre ou de la solution ou du problème. J'ai un très bon souvenir hein, de ces coordinations parce qu'on travaillait effectivement hein, sur ce projet de start-up qui a bien grandi hein, entre-temps Calypsania. Et effectivement, là, il fallait croître, il fallait rendre visible cette démarche. Et en fait, ces alignements qui étaient quand même très fréquents et c'était très carré. Hein. Il y avait même un coach, je salue Andy au passage, qui nous suivait ça. Et d'une main de fer, une main de fer dans un gant de velours, il nous a avancé et les contradictions apparaissaient bien vite. Et c'était la contradiction entre l'engagement de certains versus, allez, je ne vais pas dire la démission d'autres. Hein. Il y en a un ou deux qui me vient à l'esprit, qui sont entre-temps d'ailleurs partis hein, pour la grande plupart que j'ai à l'esprit. Et effectivement, de se rendre compte qu'il y a un désalignement au niveau de l'équipe. Pourquoi? Parce que c'est des occasions en fait, de comprendre également ce que font les autres. Donc c'est bien joli hein, ce qu'on fait nous, hein, l'appel, le trou qu'on est en train de creuser pour arriver au résultat. Mais pendant ce temps, il y a des autres collègues qui sont en train d'œuvrer. Et c'est vrai que des fois, alors, la synergie, c'est peut-être le meilleur exemple où ça vaut la peine de se parler. Mais simplement d'être conscient de ce que font les autres et d'être sûr qu'on va tous dans la même direction, des fois, c'est à la limite de l'intangible, mais ça permet quand même d'avancer plus vite. Et puis moi, il y a une question que je me demandais, Tony. On sait que ça vient et que c'est des cycles, mais finalement, en ce moment, tu saurais me dire si tu suis une stratégie de croissance ou une stratégie de rentabilité?
On fait les deux, en fait. Enfin, tu sais très bien, je suis positionné sur un marché où je fais du service avec Calypse. Donc là, je suis plutôt sur une rentabilisation avec une partie de croissance. Hein. Il y a 20% de l'activité, c'est orienté croissance, mais c'est pour un business spécifique. Le reste, c'est la rentabilisation. Sur la start-up Sanya, hein, que tu as citée avant, là, c'est de la pure croissance. Mm-hmm. C'est de la pure croissance avec prise de part de marché, prise de risque.
Je t'ai posé une question piège, mais tu t'en es plutôt bien tiré. Pourquoi ? Parce que j'avais peur que tu me fasses une réponse de CFO. Là, j'ai l'impression de me replonger dans ces challenges que je fais. Je suis un vendeur qui challenge bien le CFO d'une manière générale. Et la réponse du CFO, c'est non, non, nous, en fait, on fait une stratégie de rentabilisation, mais avec de la croissance. Alors, un petit truc chez vous, la personne qui vous répond comme ça, grosso modo, elle fait une stratégie de rentabilisation. Effectivement, il y a un cycle naturel qui fait qu'on perd certains clients. C'est normal, hein, je veux dire, c'est les affaires. Et que du coup, il faut en retrouver quelques-uns. Ceci n'est pas une stratégie de croissance. Ça reste une stratégie de rentabilisation. Je me souviens, il y a vraiment une phrase qui m'a marqué. Hein, c'était à l'époque où je travaillais pour une grande maison veuvezane, leader dans le domaine du food. Et là, c'était le directeur des ventes qui m'expliquait que dans des boîtes comme Procter & Gamble, comme Nestlé ou comme Coca-Cola, on ne fait plus de croissance. Ça fait longtemps qu'on ne fait plus de croissance quand on est leader en fait, dans sa catégorie. Ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure de gagner assez d'argent dans les deals et on maintient soit sa position de leader numéro 1, soit sa position de challenger. Et c'est déjà un sacré boulot. Moi, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas une insulte quoi, de suivre une stratégie de rentabilisation. Je dirais même que moi, dans quasiment 10 cas sur 10, quand je conseille une PME qui me dit toujours qu'elle veut générer du lead, qu'elle veut croître, hein, qu'elle veut damer le pion à ses concurrents, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais moi, je dis, est-ce que c'est vraiment avec les prospects qu'on doit le faire en sachant que les prospects, ben on ne les connaît pas, il n'y a pas la confiance, du coup ça coûte plus cher et on n'est jamais sûr d'arriver au bout du deal. Hein. Tandis qu'avec les clients, ben on a déjà signé un contrat, on voit quels sont les besoins. Toi typiquement, tu sais, quand tu as commencé à creuser tes clients, tu as déjà plus de données sur eux, sur comment est-ce qu'ils fonctionnent, tu les comprends mieux, hein, pas seulement au niveau de leurs activités, mais aussi les personnes. Pourquoi ? Parce que tu as bossé un projet avec eux. Et puis du coup, parce que tu as déjà un pied dedans, ben, tu comprends qu'est-ce que tu pourrais ajouter comme valeur ajoutée.
C'est intéressant ce que tu dis parce que le client, c'est quand même le focus premier. Hein. C'est avec ces clients-là qu'on peut gagner en rentabilité. Puis, ce n'est pas forcément la première année qu'on est rentable. Ça dépend si ces clients, on les acquiert suite à un processus de croissance. Hein. Mais dans ce processus de rentabilisation, via un CFO en contre-gestion, enfin égal, hein, il y a des clients qu'à terme, il faudra s'en séparer parce que ces clients-là ne sont pas rentables. Ils ne sont pas rentables pour plein de raisons. Hein, parce que peut-être au niveau culturel, au niveau de deals qui ont été faits dans le passé, c'est pas quelque chose qui rentre en ligne dans la rentabilité. Donc, il y a des clients aussi vers lesquels il faut se référer et puis dire, écoutez, nous, on a décidé de faire autrement. Mm-hmm. Il faut s'en séparer. Donc, il ne faut pas que parler des gens qui ne sont pas des employés, des collaborateurs qu'il faut séparer. Il y a peut-être aussi des clients qu'il faut séparer
ouais.
pour être rentable.
On va tout de suite attaquer un peu plus en détail la partie rentabilité et rentabilisation. Tu sais, avant ça, ça arrive aussi qu'une start-up souhaite croître. Et puis, parce que j'avais déjà pris l'exemple d'une brasserie artisanale, je vais continuer avec cet exemple-là. Il y a plus de 5 ans, en fait, qui sont passés. Donc, allez, quelques détails pour vous compreniez, mais pas tous. Effectivement, une brasserie comme la Nébuleuse, en 2017-2018, c'était des moments où elle souhaitait encore croître. Elle souhaitait gagner des parts de marché. Il faut savoir que les parts de marché, quand on est un bien de consommation comme une bière, elles se calculent de deux manières. D'une part, en valeur, en francs suisses. Finalement, sur 100 francs achetés en bière à un instant T, c'est quoi le nombre de francs qui ont été générés par mes marques de bière à moi ? Et puis, la même chose, en fait, en litrage. Vous avez noté, hein, quand vous achetez de la bière artisanale, ça coûte de l'ordre de 3 à 4 fois plus cher. Eh ben, c'est ça, la différence entre une part de marché en volume et une part de marché en valeur. Puis typiquement, le truc dont je suis assez fier hein, et qui a permis de gagner en croissance retail, hein, parce qu'on a les hôtels, restaurants, cafés d'une part et on a le retail de l'autre. Et puis en général, c'est un 60-40. Alors, est-ce qu'on est plutôt 60% retail ou plutôt 60% HoReCa ? Ça dépend toujours du positionnement de la brasserie et de ses marques de bière. Mais in fine, placer des bières dans un 4-pack au lieu de les placer en fait à l'unité. Donc non, il y a 4 bières, donc on n'a pas fait x4. Hein, il y a quand même des gens qui continuent à l'acheter à l'unité. Mais au final, ce genre de truc, là, c'était par le packaging qu'on a voulu innover. Ça a permis effectivement d'engranger hein, pour chaque acte d'achat plus de valeur. Elle n'est pas belle la vie.
Ah, j'adore ce retour d'expérience, par coup. J'ai même appris des choses en t'écoutant aujourd'hui, donc tu vois.
Ah, alors il y aura une révision à la fin pour voir qu'est-ce que tu as appris. Hein.
J'ai appris que la bière artisanale, c'est la meilleure.
Bon, il y en a plein. Et puis, bah, franchement, moi, je peux que recommander les bières de l'assortiment La Nébuleuse. Excellente bière en Suisse romande. Voilà, produit à Renan. Je referme cette parenthèse. Alors, qu'est-ce que tu dirais, Tony, si on abordait plus en détail la rentabilisation maintenant ?
On n'est pas des financiers, on n'est pas des CFO. Hein, mais comment est-ce que nous, on la perçoit, la rentabilisation ?
J'avais envie de donner deux notions, en fait, que je trouve assez importantes. Elles sont importantes pour le vendeur, pour le directeur, mais également pour la comptabilité, pour donner cet exemple-là. Ces deux notions, en fait, allez, il y en aura peut-être trois. C'est marge nette, marge brute et coût des marchandises vendues, donc cost of goods sold ou COGS. Et avec ces trois notions, en fait, j'ai l'impression qu'on arrive à avancer un bout sur la stratégie de rentabilisation. Pour la faire courte, quand on fait le revenu généré moins le coût des marchandises vendues, je reprends mon exemple de la bière si vous voulez bien, le coût des marchandises vendues, ça englobe le prix de la bouteille, le prix de la capsule, le prix de l'étiquette qu'il y a dessus. Il y a le prix de la main d'œuvre, hein, pour coller l'étiquette, pour remplir la bouteille, pour mettre la bouteille dans un carton, pour la mettre sur une palette, pour filmer la fameuse palette. Il y a même, si je ne m'abuse, le coût de distribution. Cost of goods sold, ouais. Il y a aussi le coût de distribution, c'est-à-dire la mise à disposition de la palette jusqu'à ce que le distributeur vienne la chercher ou le coût de livraison, c'est encore inclus en fait, hein, dans ce qu'il faut déduire du revenu pour arriver à ce qu'on appelle la marge brute. S'il y a une seule chose à retenir de tout cet épisode, c'est que grosso modo, la marge brute, elle vous indique la contribution à la rentabilité de ce produit, de cette marque donnée. Donc, est-ce que cette solution, ce service, ce produit, cette marque, cette ligne de produit, eh ben, elle a une marge brute positive? Si c'est le cas, vous pouvez avancer. Si ce n'est pas le cas, en aucun cas, vous devez avancer même en stratégie de croissance. Pourquoi? Parce que chaque deal de ce type que vous faites, vous perdez de l'argent. En fait, vous auriez mieux fait de même pas commencer la discussion parce que vous perdez de l'argent à avancer avec un deal comme celui-là. Si vous déduisez encore tous les autres salaires qui ne figurent pas dans le coût des marchandises vendues, donc le coût du marketing, enfin des marketeurs, les campagnes marketing, hein, la publicité, tous les frais commerciaux qui sont attribuables à ce que font les vendeurs, là vous arrivez ensuite à la marge nette. Et effectivement, la marge nette, c'est une bonne indication du niveau de rentabilité de votre entreprise. Parce que là, vous avez déduit également les coûts fixes. Excusez-moi, ça, j'ai oublié cette notion importante. Typiquement, les loyers de votre entrepôt. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les amortissements, hein, des installations. Toutes ces choses-là qui sont déduites, hein, avec tous les salaires qui le sont également, et les campagnes marketing, bah, ça vous amène assez proche de votre EBIT. Mais on n'y est pas encore tout à fait. Hein. C'est la notion de marge nette dans ce cas-là. Et puis, il y a encore 2-3 bidules, hein, à déduire entre marge nette et EBIT pour simplement arriver au résultat de l'entreprise. Pas mal. Hein, pour un non financier.
C'est pas mal, mais t'es presque un contrôle de gestion là. Il y a un autre élément que j'aimerais rajouter, hein. Après le terme en français je ne l'ai pas trouvé ou peut-être que je n'ai pas cherché assez, mais c'est le Labor Efficiency Ratio qui se rajoute à ça, hein. Effectivement, il est en lien avec la marge brute, hein. En fait, quelque part, si on fait une marge de brute de 4 millions et puis vous avez un coût de marge, charge salariale de 1 million, ben, votre LAIR il est de 4. Donc en fait, pour chaque franc que vous payez votre force productive, vous devez en générer X fois plus. Chaque business a son propre ratio. Hein. Mm-hmm. Nous, clairement, si on n'est pas à 3, on commence à avoir des problèmes. Entre 2,5 et 3, c'est le strict minimum.
Moi, c'est un indicateur. J'adore les indicateurs en général. Mais alors, si on arrive à le calculer par employé, là, tu m'intéresses.
Bah, c'est par employé, c'est par équipe, c'est par produit ou bien par client. Enfin, le but, c'est de le faire vraiment à chaque étape. Et comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Bien sûr, des fois, pour des raisons de business, on doit faire des offres, marchés, piquements. Mais l'ensemble de ce ratio, il doit être dans le montant que je vous dis avant. Après, c'est chacun son business. Nous, on est dans le service. Et je reviens à ce que je disais avant. Pour pouvoir avoir un ratio efficace, un LAIR efficace, bah, c'est en lien avec l'alignement de l'équipe, c'est en lien avec les objectifs qui sont suivis régulièrement et sans aucune tolérance.
Très bon point et je te remercie Tony pour ça. Moi ce que j'avais envie c'est peut-être de donner des petits trucs hein, pour boucler cette section. Puis avant de parler des inspirations, on n'est pas obligé d'être un grand mathématicien, un grand financier pour pouvoir avoir une bonne idée des deals qui rapportent et ceux qui rapportent moins. Qu'on soit en phase de croissance ou simplement qu'on doit faire attention à la rentabilisation et aussi à son cash flow. Il y a toutes les boîtes hein, qui doivent faire attention au cash flow, hein, qu'elles soient start-up, multinationales ou PME. Moi d'une manière générale, je pense que... pour tous les deals, c'est important d'avoir une notion de quel est le coût du service ou de la marchandise vendue. Alors, dans le cas où on fait un bien, hein, que ce soit un bien de grande consommation ou un bien en B2B, eh ben effectivement, on aura la valeur de la marchandise qui ne sera pas anodine. Hein. Les salaires, c'est toujours quelque chose qui est important, qu'on soit en milieu industriel, de grande consommation ou B2B, ou alors encore en service, où c'est encore plus important. Mais d'une manière générale, on part en gestion de projet typiquement pour la business intelligence, vous devez avoir une notion du nombre d'heures de travail qui vont être générées par type de consultant. Et puis cette notion-là, vous n'êtes pas obligé d'en faire un calcul sur précis. Moi, j'ai vu en fait des gens le faire sur un coin de table, mais le faire très bien. Et j'ai vu des gens sortir des grandes formules Excel et faire ça n'importe comment. J'ai un conseil tout bête, c'est que d'une manière générale, ne laissez pas le vendeur faire le calcul de rentabilité. Bon, franchement, c'est un conseil un peu nul, parce que moi, je suis vachement bon dans ces calculs de rentabilité, mais le souci, c'est que normalement, le vendeur, il aura toujours envie de faire passer son deal. Donc, regardez déjà son côté éthique, pour voir si c'est faire un calcul honnête. Et puis, l'autre gars à qui je ne le confierai pas non plus, c'est au gars qui produit la solution. Pourquoi ? Parce qu'il croit qu'il est au centre de la solution. Et puis, typiquement, à faire un calcul qui l'arrange, quoi. Genre, il va compter toutes ses heures, il va ajouter 20% à ça, sans se demander, en fait, le prix que le client il est prêt à payer. Et sans se demander ce que lui doit réduire dans son effort pour pouvoir, en fait, quand même produire une solution qui soit valable pour le client et viable pour l'entreprise pour laquelle il travaille. Tu vois ce que je veux dire,
Denis ? Non, mais je vois très bien.
Tu te marres, hein, tu te marres.
Non, mais je me marre. Non, la meilleure façon de ne pas faire de croissance et pas d'être rentable, c'est de mettre un technicien dans le rôle du vendeur en face d'un client. C'est sûr que tout le monde sera mécontent. Les nouveaux clients, ils ne sont pas toujours rentables, hein. Pratiquement jamais. Mmh. Mais effectivement, on fait un effort parce qu'on doit démontrer aussi une méthode et puis il apprend. Par contre, ces clients, au fil du temps, comprennent aussi comment il faut procéder et puis eux-mêmes aussi gagnent en rentabilité. Parce que si on est tous les deux efficaces dans le mode de collaboration, ben, chacun y gagne. Chaque temps perdu du point de vue du client, c'est aussi de l'argent perdu.
Ouais, c'est clair. Et puis moi, je voulais presque revenir sur ce que j'avais annoncé en début d'émission. Hein, vous vous rappelez, ces rapports de vitesse, hein, le fait qu'on commence souvent par de la croissance et ensuite, une fois qu'on a stabilisé sa position, bah, on rentabilise. Eh ben, si vous vouliez une méthode, et puis je vais prendre à peu près l'exact inverse dans ce que je vais dire, vous savez, d'une manière générale, sur 10 clients qui viennent me voir, j'ai des PME qui sont plutôt installées. En vérité, en fait, elles maîtrisent mal leur stratégie de rentabilisation, assez souvent même parce qu'elles ne savent pas bien calculer en fait, hein, la rentabilité d'un deal. Et j'ai envie de vous dire, commencez par maîtriser la rentabilisation de vos deals. Voilà, quelle que soit la position dans laquelle vous êtes actuellement, vous prenez les 3 derniers deals que vous avez faits. Est-ce que vous êtes en mesure de me dire, sur ces 3 derniers deals, c'est quoi la valeur de marge brute et c'est quoi la valeur de marge nette que vous arrivez à estimer et pas au centime près, hein, mais que vous arrivez à estimer. Est-ce que du coup, vous arrivez à me prioriser de ces 3 deals ? C'est celui-ci où on a le plus gagné, donc en marge brute, respectivement marge nette. Et j'ai envie de vous dire, une fois que vous maîtrisez ça, ça devrait être plus facile de maîtriser une stratégie de croissance où vous ne perdez pas trop de billes. Parce qu'effectivement, typiquement, on parlait du coût des marchandises vendues. Il y a des deals où on est en positif sur la marge brute et où on est en négatif sur la marge nette, mais où ça vaut quand même la peine d'avancer. Pourquoi ? Parce qu'on gagne en part de marché. Et que dans 2 ou 3 ans, hein, quand le marché se sera consolidé, on sera bien content d'être dans le top 3 des fournisseurs qui sont privilégiés par les clients. Donc, il faut parfois faire des calculs sur le long terme. Et ces calculs, si on n'arrive pas à consolider son équipe, hein, de manière à ce que tout le monde suive le même objectif et du coup à s'assurer à travers la rentabilisation de chaque deal qu'on a compris comment on fait vraiment du business, là la porte sera vraiment ouverte à des têtes bien faites qui permettront de développer et d'optimiser votre croissance.
Café.
Tu restes sans voix, Tony, quoi.
Croissance.
Tu sais quoi ? Je vois que tu as respiré un peu plus fort et c'est peut-être un indice chez vous sur le passage à la section inspiration. Allez, on re-respire. Et là, en l'occurrence, je vais commencer par l'article et je vais te laisser la citation. Ça te va ?
Je suis sans voix, Marc.
Tu es toujours sans voix. Bah, écoute, retrouve-la quand même pour la citation parce que je l'aime vraiment bien, cette citation. Elle m'a beaucoup parlé.
Mais oui.
L'article, il est méga simple. Hein. C'est croissance ou rentabilité, point d'interrogation. Et c'est en fait Claudio D'Amico, hein, qui fait partie de l'advisory transaction d'UBS. Donc, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est les gens à qui on va demander des sous, justement, pour financer sa croissance. Et effectivement, il a un très bon point de vue sur qu'est-ce qu'on appelle croissance, qu'est-ce qu'on appelle rentabilité et surtout, comment en parler en face d'un banquier. Donc ça, je vous le recommande vivement, en particulier quand vous êtes sur le point d'aller négocier avec votre banquier, soit votre ligne de crédit ou que sais-je encore.
Mais cet article-là, je vous recommande vraiment de le lire attentivement parce qu'il y a des périodes où aller discuter avec son banquier qui sont aussi en lien avec la rentabilité et la croissance. Donc c'est extrêmement intéressant. Faites pas comme moi que vous vous adressez au banquier à la mauvaise période. Bon, Actuellement, ouais. J'ai compris.
Et puis, je ne sais pas s'il faut s'adresser à UBS tout de suite, parce que j'ai l'impression qu'ils sont encore en train de consolider leur compte, là, suite au rachat de Crédit Suisse. Mais...
Bon, à force d'avoir plus qu'une banque en Suisse, on n'aura pas le choix, mais ça, c'est un autre discours.
Ce n'est pas la section inspiration, c'est la section OS Lang. Allez, on referme cette parenthèse et on passe à la citation. Quoi.
J'ai la citation, celle-ci. Alors, aussi, elle vient aussi de loin, hein, elle date presque d'un siècle, mais elle est tellement réaliste. « Rien n'est plus vulnérable qu'une théorie scientifique. » car elle n'est qu'une tentative éphémère pour expliquer ces faits, et non une vérité éternelle en soi. De Carl Gustav Jung.
Ouais, bah, l'inventeur de la psychanalyse, en tout cas moi je l'estime comme inventeur de la psychanalyse, également scientifique, ça a été un chercheur, hein, c'est un chercheur de l'esprit ou chercheur de l'âme, il a travaillé avec des physiciens hein, sur l'aspect quantique, donc j'ai envie de vous dire, c'est un chercheur qui rappelle l'humilité que devraient avoir les recherches. Hein. Un chercheur, en fait, il cherche, il n'a pas la prétention de dire qu'il a trouvé. Moi, j'aime beaucoup ce positionnement-là. Et il nous rappelle la fragilité d'une théorie scientifique qui n'est finalement que la limite de ce qu'on connaît à un instant T. Et je pense qu'en gardant l'humilité, simplement de se rappeler ce fait-là, hein, qu'on ne sait pas tout, et qu'effectivement, on est vite dans l'interprétation, vous savez, au siècle passé, on a longtemps pensé que l'atome, bah, c'était la plus petite particule. Et puis, entre-temps, on en a trouvé d'autres. Hein. Et puis, je pense notamment au boson de Higgs, qui a été trouvé il n'y a pas si longtemps. Au moment où j'en étais moi-même conscient, hein, pour vous dire qu'on l'a vécu, le fait que la science se trompe, en tout cas sur ce point-là, bah, rappelons-nous que quand on ne tente rien, eh ben, on n'a rien. Et qu'effectivement, c'est grâce aux chercheurs qu'on arrive à pousser les limites de la connaissance. Mais connaissance n'est pas toujours vérité. Et on s'en rapproche sans forcément encore avoir tous les aspects de la vérité. Et il est bon de s'en rappeler. Et je suis très reconnaissant à Carl Gustav Jung de nous rappeler ça avec des termes intelligibles. Et c'est donc, je le rappelle, un chercheur. C'est un scientifique, finalement, qui nous fait ce rappel-là.
Après, rappelez-vous hein, le terme « rester humble ». J'aime bien dans cette citation le mot « éphémère » est plutôt une vérité éternelle. Dès le moment où on est persuadé qu'on détient la vérité, c'est la première minute où on commence à être dans le tort. En fait, on ne sait rien, on ne connaît rien. Parce que ce n'est pas parce qu'on a appris quelque chose qu'on devient maître. Peut-être que le lendemain, ces choses changent. Il faut toujours aller se fier à quelqu'un d'autre. Donc l'ego, il faut le mettre de côté, rester humble.
Et tu me rappelles une citation d'André Gide, mais du coup, on en aura une bonne pour une prochaine émission. Moi, je crois qu'il est temps de remercier le public qui nous a supportés jusque-là. Hein, merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de cette émission. Vous savez qu'il y a d'autres podcasts qu'on a enregistrés, qu'on a déjà diffusés. Avec Tony, il n'y en a pas moins de 3, hein, sauf erreur. Le quatrième avec celui-ci. Vous retrouvez tout ça sur audiolab.ch. N'hésitez pas à nous suivre ou à nous poser des questions sur Twitter. Le handle de Tony, c'est Tony_Germini. On va noter ça dans les notes d'émission. Hein. Donc, vous gênez pas. On retrouve ça, hein, les notes d'émission sur audiolab.ch. Et puis la voix qui vous parle, c'est Warco Brienza. Vous retournez le M pour en faire un W et vous obtenez Warco Brienza. Je ne me rappelle plus du sujet du prochain épisode, mais ça aussi, on le mettra dans les notes d'émission. En tout cas, c'est sûr qu'on va se retrouver dans Café Croissance pour parler de croissance, mais pas que. Puis en attendant, bah, prenez soin de vous et de vos équipes. Allez.
Ciao à tous. Ciao.
Café Croissance. Podcast Audiolab.